France Musique. Musicopolis. Long séjour à Madrid. Madrid, au XVIIIe siècle, est une toute petite capitale si on la compare à Paris, à Naples ou à Londres. Il est vrai que le roi n'y est pas souvent, tout au plus quelques semaines dans l'année. Le reste du temps, il voyage d'une résidence à l'autre, dans des palais adaptés à la saison, plus frais l'été, plus chaud l'hiver. La cour suit, ce qui ne favorise pas le développement de la ville. Madrid, nous dit un voyageur français en 1729, n'a ni murailles ni fossés. Les rues sont presque toutes larges, longues et droites, mais extraordinairement malpropres, puantes et mal pavées. Les places publiques sont ornées de belles fontaines. L'eau de Madrid, ainsi que le pain, sont en grande réputation. On boit du vin de la Mancha qui est fort bon, d'un goût approchant de celui de Bourgogne, mais d'une délicatesse inférieure. C'est le vin dont boivent les princes. Le roi boit du vin de Bourgogne. L'air de Madrid est fort vif, et s'il l'était moins, les vilainies qui sont dans les rues causeraient la peste. Il y a quantité de petites églises fort propres, superbement ornées et enrichies de beaucoup de lampes. Les couvents sont le plus considérable ornement de Madrid. L'extérieur des maisons n'est en général ni beau ni vilain. La plupart sont de briques. L'intérieur est fort grand, ordinairement mal meublé, quelquefois très magnifiquement, mais sans goût. Le duc d'Ossone, raconte un voyageur français, a dans son palais deux théâtres, l'un pour servir à la représentation des comédies et l'autre à celle des opéras. Il n'y a cependant point d'opéra dans Madrid, ni dans le reste de l'Espagne, et il n'y a guère de seigneurs en état de rassembler et de payer des musiciens pour leur faire représenter un opéra. Ils le font quelquefois, dans quelque occasion extraordinaire. Il y a des comédies publiques. Les acteurs sont assez bons. Leurs comédies sont remplies d'incidents et d'intrigues.
Mis balance. Et te gustas, Andrea?
Ce que ne nous dit pas notre voyageur français, c'est que la vie musicale de Madrid est très contrastée. De même que le roi boit du vin de Bourgogne tandis que les princes boivent le vin de la Mancha, le roi et la cour écoutent de l'opéra italien tandis que le peuple et les bourgeois se nourrissent de la musique nationale. D'ailleurs, en 1737, année où commence notre musicopolis, la reine, épouse de Philippe V d'Espagne, est une Italienne née Elisabeth Farnèse. La reine d'Espagne, née Elisabeth Farnèse, s'inquiète pour son époux Philippe V. Il a un tempérament mélancolique, comme on dit alors, manière délicate de parler de graves dépressions, qui en arrivent même au niveau de la démence. C'est embêtant lorsqu'on doit présider aux destinées d'un pays, et même si Elisabeth elle-même et ses ministres sont là pour faire le job, il serait bon que le roi soit au moins présentable. Elle a donc l'idée de faire venir un chanteur qui a fait s'extasier les publics de l'Europe tout entière. Partout où il s'est fait entendre, il a suscité le ravissement des foules par son chant à la fois virtuose et enchanteur. le chanteur que la reine d'Espagne a appelé tel un Orphée capable d'amadouer les bêtes les plus sauvages pour venir à bout de la démence de son royal époux, c'est celui que l'Europe connaît sous le nom de Farinelli. Né Carlo Broschi, près de Naples, 32 ans plus tôt, le chanteur arrive donc à Madrid dans le courant de l'année 1737. Après 3 ans passés à Londres et un court séjour à Paris, où, quoi qu'il soit italien et quoi qu'il ait une voix de soprano, deux caractéristiques plutôt détestées par les Français, il a déclenché un enthousiasme extraordinaire. À Madrid, il prend vite connaissance de sa nouvelle tâche, qui sera de distraire le roi, de lui apporter un peu de réconfort, de calmer sa démence, bref, de faire office de musicothérapeute. Le terme n'existe pas encore, mais la fonction si, depuis la nuit des temps, du moins depuis Orphée, vous savez, celui qui amadouait les bêtes sauvages. Je parlais d'Orphée, qui amadouait les bêtes sauvages, et on n'est pas si loin de la vérité lorsqu'on applique la comparaison avec Farinelli chantant pour Philippe V. Voici ce qu'écrit l'ambassadeur d'Angleterre à propos du roi d'Espagne. Lorsqu'il se retire pour dîner, il se met à hurler de manière terrifiante, au point qu'au début, tout le monde en était étonné et que les confidents devaient quitter les appartements dès qu'il se mettait à table. La nuit, sa distraction consiste à écouter Farinelli chanter les mêmes 5 airs italiens. Mais votre grâce sourira lorsque je lui dirai que le roi lui-même imite Farinelli, une fois que la musique est terminée, avec des hurlements tellement terrifiants qu'on essaye par tous les moyens possibles d'éviter que les gens puissent témoigner de ses folies. Il a eu une de ces crises cette semaine qui a duré de minuit jusqu'à plus de 2 heures du matin. Soir après soir, Farinelli continue son œuvre de thérapeute. Il écrit à un ami « Depuis le premier jour que je suis arrivé, j'ai suivi cette même tâche en chantant tous les soirs au pied des souverains et l'on m'écoute comme si c'était le premier jour. Il me faut prier Dieu qu'il me conserve en bonne santé pour continuer cette vie. Je m'enfile tous les soirs 8 ou 9 airs dans le corps. Il n'y a jamais de repos. » Thank you. Chaque soir donc, Farinelli chante pour le roi. Mais bientôt, il va avoir davantage d'activités. D'abord, il chante lors des fêtes qui célèbrent les divers événements de la vie royale. Puis, à la demande de la reine, il va aussi organiser des représentations d'opéra. Enfin, il devient une sorte de super impresario. Il fait venir des chanteurs et chanteuses, italiens bien sûr. Il commande des opéras, il demande des livrets à son cher ami Métastase. Il fait venir des compositeurs. En somme, il devient le superintendant de la musique. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas totalement à la botte de la reine. Parmi les amis italiens de Farinelli à Madrid, un certain Domenico Scarlatti. Les deux hommes se connaissent depuis plus de 10 ans, ils s'étaient rencontrés à Rome et se sont retrouvés avec plaisir à Madrid. Le hic dans leur amitié, c'est que Scarlatti travaille non pas pour la reine et le roi, mais pour le prince des Asturies, Ferdinand, et son épouse Maria Barbara. Et Elisabeth, la reine, éprouve pour ce jeune couple une détestation viscérale. Dû au fait que Ferdinand, fils du roi d'un premier mariage, est placé dans l'ordre dynastique avant les enfants qu'elle-même a eus avec le roi. Par conséquent, la reine fait tout pour interdire à Farinelli de fréquenter le prince des Asturies à sa maison, mais le chanteur est très diplomate. Il réussit à ménager la chèvre et le chou. Il assiste donc très souvent aux soirées du prince, où il entend jouer son ami Domenico. Farinelli a eu bien raison de se tenir en bon terme avec Ferdinand, le prince des Asturies, puisque celui-ci, en 1746 à la mort de son père, va devenir roi à son tour. Et là, ce sera la consécration pour le chanteur dans son rôle de grand intendant de la musique. Pendant les 13 ans que va durer le règne de Ferdinand VI, Farinelli va faire monter le niveau musical de la cour d'Espagne à un point qu'elle n'a jamais connu. Directeur artistique des théâtres du Buen Retiro et d'Aranjuez, il va mettre au point des productions extravagantes, au point de détourner le cours du Tage pour rendre possible une water music pour la famille royale. Totalement intégré en Espagne, il sera pourtant prié de quitter le pays après la mort de Ferdinand en 1759, s'installant à Bologne et regrettant indéfiniment son séjour ibérique, son rôle d'impresario, ses amis, peut-être l'eau et le pain de Madrid.
Oh,
L'air d'Assis, extrait de Polifemo de Nicola Porpora, Franco Fagioli, contre-ténor, avec l'Accademia Montis Regalis, dirigée par Alessandro De Marchi. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Delphine Baudet pour le mixage, Clément Diaz pour le site et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.